Bonjour à tous. La nouvelle équipe gouvernementale s'est réunie pour la première fois cet après-midi à l'Élysée. Un conseil des ministres de 2 heures environ que nous vous raconterons dès le début de ce journal. Alors qu'un des ministres a déjà été sur le terrain, Gérald Darmanin au chevet des policiers aujourd'hui, comme le premier d'entre eux, a-t-il dit. Éric Dupond-Moretti à la justice est lui attendu ce soir à la prison de Fresnes et ses oreilles ont sifflé toute la journée. Accusé, vous l'entendrez, par les féministes de ne pas soutenir les femmes victimes de violences. Le baccalauréat 2020, en contrôle continu, les résultats tombent aujourd'hui avec beaucoup de nouveaux bacheliers. Nous leur donnerons la parole dans ce journal. Nous irons aussi au Moyen-Orient où l'Iran subit des explosions à répétition près des sites nucléaires. Et puis en Algérie, vous entendrez la parole d'un opposant récemment libéré de prison. Karim Tabouf réclame un vrai processus politique dans son pays.
France Inter.
Il s'est tenu dans la salle des fêtes de l'Élysée pour respecter les règles de distanciation physique. Le premier conseil des ministres de l'ère Castex a donc eu lieu cet après-midi. 16 ministres, 14 ministres délégués, un secrétaire d'État déjà nommé. Tous sont repartis 2 heures plus tard, sans un mot à la presse. Seul Gabriel Attal, nouveau porte-parole, s'est logiquement exprimé. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Laurence, vous êtes sur place. Alors comment s'est passé ce premier conseil à l'Élysée ?
Vous le disiez, ceux qui attendaient une photo de famille sur le perron de l'Élysée ou une sortie échevelée de Roselyne Bachelot ou de Éric Dupond-Moretti ne sont que déceptions à cette heure. Les nouveaux ministres se sont coulés dans les us de ce quinquennat. Non, on ne parle pas dans la cour de l'Élysée. Il faut s'en remettre au tout neuf porte-parole Gabriel Attal qui a fait une prestation honorable, distillant les éléments de langage du président. Ce gouvernement est un gouvernement de dépassement et de combat face à une crise historique. Emmanuel Macron lui a même donné un nom, le gouvernement des 600 jours, 600 jours avant la présidentielle de 2020. Il s'agit d'ouvrir un nouveau chemin, a-t-il dit, autour de 4 axes. La reconstruction économique, écologique et sociale, une République plus à l'écoute de ses territoires plus contractuels, une plus grande indépendance à l'international, enfin un patriotisme républicain retrouvé autour de ces piliers que sont l'école, la justice et la police. La police dont l'exécutif estime qu'elle a fait l'objet de trop d'attaques récemment, sans que l'on sache exactement qui cela désigne. Gabriel Attal a laissé entendre que certaines expressions publiques sont allées trop loin. Il laisse au Premier ministre le soin de détailler les mesures à venir à l'occasion d'un discours de politique générale qui interviendra après le 14 juillet. Un séminaire du nouveau gouvernement se tiendra par ailleurs ce samedi.
Merci beaucoup Laurence Perron. Vous êtes avec Fabien Gosset pour les moyens techniques depuis l'Élysée cet après-midi. Alors, juste avant ce conseil des ministres, un des ministres était déjà sur le terrain, Gérald Darmanin, désormais à l'intérieur, un fidèle sarkozyste devenu pivot de la Macronie. Ce matin, il assurait un soutien total aux forces de l'ordre depuis la place Beauvau lors de sa passation de pouvoir. Et puis, il est allé le dire de vive voix dans un commissariat des Mureaux dans les Yvelines, un déplacement suivi par Laure de Beaulieu.
Je sais que vous faites un métier difficile et je suis venu vous dire qu'on vous soutient. À peine arrivé, c'est donc le commissariat des Mureaux que le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a choisi pour très vite appliquer ce qu'il a évoqué dans son discours ce matin, place Beauvau, être un ministre de terrain.
En général, l'effet de délinquance, c'est quoi ?
Ça va être un peu tout, mais beaucoup de stupéfiants.
Ouais. Cannabis surtout, mais pas que ?
Ouais, c'est principalement cannabis ici, ouais.
En tout cas, je sais que vous faites un métier difficile et je vais vous dire que je tiens.
Merci.
Il s'est ensuite recueilli devant la sculpture dans la cour du commissariat qui est érigée ici en mémoire de Jean-Baptiste et Jessica, ce couple de policiers tués à Magnanville il y a 4 ans. Ici travaillait Jean-Baptiste Salvin et le nouveau ministre de l'Intérieur est venu lui rendre hommage.
Je n'ignore pas que pour la première fois, et indépendamment des risques de votre métier, des agents de l'État, des policiers français ont été tués en dehors de leur service, dans des conditions particulièrement insupportables, par des terroristes islamistes.
Loin des caméras et des micros, Gérald Darmanin a tenu à déjeuner avec les policiers du commissariat, puis il a repris la route vers l'Élysée pour le premier conseil des ministres.
Et dès son départ du commissariat ce matin, le secrétaire général d'unité SGP Police FO réagissait, se réjouissant des mots forts employés par le nouveau ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin sera ce soir à la gendarmerie d'Aiguillon dans le Lot-et-Garonne. Les visites commencent donc, les visites symboliques auprès de ceux qu'il faut rassurer. Ce soir, Éric Dupond-Moretti est attendu à la prison de Fresnes, arrivée prévue dans une demi-heure environ auprès du personnel pénitentiaire. Un peu plus tôt dans la journée, le nouveau nouveau ministre de la Justice avait lancé des pistes pour ses actions à venir, souhaitant notamment réformer le parquet sans faire la guerre aux magistrats. « Je veux, dit-il, avec vous, garder le meilleur et changer le pire. » Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, voici donc deux personnalités qui ont été scrutées ce mardi à la tête de ministères régaliens. Deux hommes aussi qui sont décriés par les féministes. Elles se sont mobilisées aujourd'hui devant plusieurs lieux de pouvoir contre ce qu'elles appellent un remaniement de la honte. Elles étaient une trentaine ce matin place Beauvau, quelques fémaines également devant l'Élysée avant le Conseil des ministres. Et puis cet après-midi place de la Madeleine pour enterrer symboliquement le nouveau ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, je vous le rappelle, est visé par une enquête pour viol. Elles ont voulu enterrer également Éric Dupond-Moretti, à qui elles reprochent des positions à contre-courant du mouvement MeToo. Justement, Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous vous êtes plongé dans quelques archives d'Éric Dupond-Moretti.
Oui, et le nouveau garde des Sceaux n'a en effet jamais mâché ses mots sur ce mouvement MeToo. Il y a deux ans, par exemple, en plein mouvement, la tournée de Bertrand Cantat est menacée par des manifestants, manifestation de militantes féministes, il prend la défense du chanteur dans C'est à vous sur France 5.
Cet homme a purgé sa peine, il est sorti, il y a un juge d'application des peines, et puis il reprend son métier. Où est le problème? Je comprends pas. C'est du macartisme.
Autre avis tranché dans un débat animé sur CNews en 2018, son opposition farouche à l'idée d'un délit d'outrage sexiste défendu par Marlène Schiappa.
Il y a de vrais combats et de vraies conneries. Mais infliger 90 euros d'amende à un type qui siffle une fille dans la rue, moi je suis franco-italien. Et alors ma latinité m'a permis quelques incartades quand j'étais plus jeune. Donc j'ai sifflé quelques filles. Ça coûte 90 balles. Ça doit être réglé par la bienséance, pas par la loi.
Éric Dupond-Moretti qui donne son avis mais qui défend aussi Georges Tron par exemple lors de son procès pour viol et agression sexuelle, pointant notamment du doigt le rôle des réseaux sociaux.
Que l'on dénonce les comportements des hommes qui tiennent mal, c'est normal. Qu'on soutienne les victimes pour aider les plus timorées d'entre elles, c'est normal. Qu'on libère la parole de ces femmes, c'est normal. Mais le réceptacle de ces plaintes, ça peut pas être la toile. C'est la justice. Parce que comment un type qui n'a rien fait peut se défendre? Qu'est-ce qu'on fait du contradictoire, de la présomption d'innocence, des droits de la défense?
Georges Tronc est d'ailleurs en attente de son procès en appel. Il avait été acquitté en première instance. Éric Dupond-Moretti, on l'a entendu, défend ses clients, donne son avis, mais reconnaît aussi l'importance du mouvement MeToo dans la libération de la parole des femmes.
Merci Xavier Demagny. Vous avez à ce propos signé un article à retrouver dès maintenant sur notre site franceinter.fr. J'ajoute que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, défendait lui tout à l'heure la présomption d'innocence concernant le cas Gérald Darmanin. Vous l'entendrez dans le journal de 19h. Voilà pour les premières critiques. Les premiers déplacements. Pour ce qui est des promesses aussi, notez que la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a dit souhaiter que l'écologie soit l'affaire de tous les ministres du gouvernement. Et comme un écho, Bruno Le Maire, qui conserve l'économie, a promis lui aujourd'hui une relance verte, industrielle et tournée vers les plus petits. Un pays qu'il faut remettre d'aplomb et des secteurs à soigner, c'est le cas du personnel hospitalier. Les négociations sur leur salaire reprennent justement à l'instant, elles pourrait durer jusque tard dans la nuit entre syndicats et gouvernement. 7 milliards d'euros ont été attribués au personnel paramédical, aux médecins ainsi qu'aux étudiants. Il y avait beaucoup moins de suspense aujourd'hui, beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de cris de joie que d'habitude, mais tout de même un soulagement palpable devant de nombreux ordinateurs. Les résultats du bac 2020 ont été dévoilés. Ils se basent cette année, à cause du confinement, sur le contrôle continu, pas d'examen final. Charlotte Coutard est à Laval, où tous les élèves de terminale S du lycée Ambroise Paré sont bacheliers aujourd'hui.
Oui, 100% de réussite, carton plein pour Corentin et ses amis. Sans surprise, il a son bac S, mention assez bien.
De toute façon, si on avait la moyenne durant cette année, on était sûr de l'avoir. Après, c'était plus au niveau des mentions qu'on n'était pas trop sûr, avec tous les arrondis, mais sinon, on l'avait.
Malgré tout, il voulait venir pour chercher son nom dans la liste.
Ça fait quelque chose, je pense. C'est mieux de le voir en vrai que de regarder sur Internet et puis de voir si, par exemple, les copains ou d'autres personnes l'ont. Donc, c'est mieux de le voir en vrai, je pense.
Emma, elle a très bien.
Dans la cour du lycée, des sourires, oui, mais pas des cris de joie. Il manque quelque chose, reconnaît Angèle.
Ça avait l'air bien quand on voyait ça à la télé, tout le monde était super content, tout ça, l'ambiance, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et puis au moins, on a moins stressé et C'était sûrement plus simple dans les conditions actuelles.
Mais ces lycéens méritent quand même leur diplôme, estime Brigitte Basset-Jussaume, professeure de physique chimie au lycée Ambroise Paré.
Enfin, nous, on sait qu'ils méritent les mentions qu'ils obtiennent. Là. Bon, est-ce que ça sera le cas de tous les élèves dans tous les établissements? Je ne sais pas. On peut se poser des questions sur certaines mentions, effectivement. Nous, on les connaît bien et on sait que pour eux, ce sont des mentions qui sont méritées.
Quoi. Ils n'ont pas volé leur bac?
Non, pas du tout.
Dans cette classe, 8 élèves obtiennent la mention très bien, plus de 16 sur 20 de moyenne générale.
Merci Charlotte. Charlotte Coutard de France Bleu Mayenne. Et pour féliciter les bacheliers après cette année hors norme, sachez qu'Emmanuel Macron a utilisé pour la première fois aujourd'hui le réseau social TikTok, gagnant en à peine une heure plus de 100 000 abonnés. Alors pour les quelques déçus après ce bac 2020, le rattrapage commencera dès demain. L'avenir s'obscurcit un peu plus sur le marché du travail pour ceux qui ont déjà leur bac en poche. La banque HSBC France va supprimer un tiers des effectifs dans sa division de banque d'investissement. Selon plusieurs syndicats, des licenciements secs ne sont pas exclus. Il a toujours considéré le Covid-19 comme une petite maladie. Le voilà contaminé. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au nouveau coronavirus aujourd'hui après avoir eu de la fièvre hier. Au Brésil, le confinement n'est pas la règle. L'épidémie a fait plus de 65 000 morts. Une nouvelle explosion en Iran, une de plus aujourd'hui, faisant 2 morts dans le sud de Téhéran. Et cela dure depuis plus d'une semaine. À chaque fois, le régime parle d'accident, mais il semble que les installations nucléaires du pays soient en fait visées. C'était le cas notamment le 2 juillet dernier dans une centrale nucléaire à Lisfroussard.
La piste d'un accident à Natanz, principal site d'enrichissement d'uranium du pays, a été définitivement écartée. Il ne s'agirait pas d'une frappe aérienne, mais bien d'une bombe posée juste à côté du hangar. Le mode opératoire a été confirmé par les gardiens de la Révolution. Et selon une source dans le monde du renseignement au Moyen-Orient qui s'exprime dans les pages du New York Times, cela viendrait des Israéliens. L'hypothèse est de plus en plus plausible, car Israël et l'Iran se livrent depuis plusieurs mois à une véritable guerre secrète. De leur côté, les Israéliens ne confirment pas mais ne nient pas non plus, c'est dans leur habitude. Avigdor Lieberman, un ancien ministre de la Défense, estime que c'est le patron du Mossad qui a révélé l'information. Benny Gantz, l'actuel ministre de la Défense, précise que toutes les attaques sur le sol iranien ne viennent pas forcément d'Israël mais que les dégâts causés au programme nucléaire iranien étaient une bonne nouvelle. En tout cas, si Israël est vraiment derrière cette explosion, il ne s'agit plus d'une guerre froide mais d'une véritable déclaration de guerre à l'Iran, immobilisé par une grave crise économique à cause des sanctions américaines et du coronavirus. Et si Téhéran semble vouloir éviter toute escalade en ce moment, il est compliqué d'imaginer que les Iraniens ne ripostent pas d'une manière ou d'une autre. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Partons maintenant en Algérie où les autorités ont libéré quelques-uns des opposants au régime arrêté pendant le confinement. 4 de ces militants la semaine dernière ont été libérés. L'un d'eux parle aujourd'hui. Il s'agit de l'opposant Karim Tabou, figure emblématique du Irak, mouvement populaire dans le pays. Et il n'a pas adouci son discours, Christian Chesneau.
Entouré de ses proches, sa fille dans les bras, Karim Tabou savoure ses moments de retrouvailles et de liberté. Le militant pro-démocratie porte sur les épaules un drapeau algérien en écharpe, comme pour signifier que son combat est national. Libéré sous caution, Karim Tabou a réservé ses premiers mots à Berber Télévision.
Les Algériens, ils savent très bien que le temps est venu. Personne ne peut faire reculer ces Algériens devant un besoin. C'est une nécessité historique que d'aller vers un vrai processus politique qui permettra aux Algériens d'aller de l'avant. Il faut qu'on soit déterminés et puis par les voies pacifiques, restons unis, restons pacifiques, restons civilisés, restons organisés et allons de l'avant dans de meilleures conditions.
La libération de Karim Tabou est un geste d'apaisement de la part du pouvoir algérien, mais l'opposition réclame d'autres libérations, comme celle du journaliste Khaled Drareni, directeur du site d'information en ligne Kasbah Tribune et correspondant de TV5 à Alger, dont la mise en liberté a été refusée jusqu'ici.
C'était Christian Chesneau. Quelques mots des footballeurs de Melbourne, pris de court par le reconfinement de l'état du Victoria aujourd'hui en Australie. Ils ont voulu regagner la ville in extremis avant la fermeture des frontières pour pouvoir jouer le championnat de foot. C'était sans compter le brouillard qui a cloué au sol leur avion. Le football attendra pendant 6 semaines au moins. Peu de brouillard a priori en France métropolitaine.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Et on vous retrouve, Elodie Calac de Météo France. Elodie, vous nous prévoyez encore du beau temps demain, excepté à l'extrême nord du pays.
Oui, on a une dégradation qui va gagner les côtes de la Manche, les Hauts-de-France, les Ardennes avec beaucoup de nuages. Sur le Nord-Pas-de-Calais, de la pluie. De la Bretagne vers l'intérieur de la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est, des passages nuageux mais encore de belles éclaircies. Et puis plus au sud, plein soleil, juste quelques nuages en montagne l'après-midi.
Les températures sont en hausse?
Oui, souvent 8 à 15 degrés le matin jusqu'à 22 pour le sud-est. Et puis l'après-midi, 19 degrés à Lille sous la pluie, 21 à Brest, 27 degrés à Nancy, à Paris ou à Nantes, 31 à Lyon et à Bordeaux et jusqu'à 34 degrés du côté de Nîmes.
Merci Élodie Calac.